Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Mistral, des mots d'ici, des mots d'ailleurs, l'émission qui vient sonder l'intérieur et l'extérieur de vos vies, en son, en mots et en notes. Et si tout ceci n'était dû qu'à une suite de rencontres, des mots d'ici, des mots d'ailleurs, t'as toujours le choix de laisser entrer la lumière ou garder les volets fermés. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs. À mes chers invisibles, je passe la porte du monde et viens vous rejoindre pour vous dire que chacun de vous est terreau de cette terre, monde croisé uni dans la quintessence. Tout ce qui vibre, exhale et respire. Viens donc au rendez-vous de ton cœur appelé à l'autel de vie. Effort de mémoire. Je me souviens. Et toi, te souviens-tu, cher invisible ? Demain des lendemains qui rendent fou de joie. Joli prisme sur la joie des rues. Le cœur-âme se soulève comme un soleil d'espérance. Je ne serai plus jamais triste, c'est sûr. Cœur et âme se soulèvent encore à corps comme un séisme de la terre. En ciel, cœur et âme. Âme corps, corps nu, dans laquelle on verse l'espoir du jumeau divin. Tu sais, ce qui nous relie à notre essence divine, quand tout semble disparaître sous nos pieds, se dérobe sur terre et s'enfonce dans les méandres. Issus de deux, nous sommes deux. L'estime de soi passe par le baiser divin sur la lèvre de notre divin jumeau. Quelques autres fois, dans la tourmente et l'envie d'émancipation, nous tournons vers cet autre magnifiquement différent et pétri de ressemblance aux imperfections gracieuses. Je t'aime, ami, amant, je t'aime. Je repère des gestes, des mouvements, des attitudes qui balisent ma mémoire. Je sais que je serai moins malheureux maintenant que je te connais. Au même instant où j'écris ces quelques lignes, la vie grouille et le vent se lève dans le même instant. Quelle chance, oh oui, quelle chance d'être vivant de tous ces événements du quotidien. La contemplation de la vie des simples gens. Et puis, il y aura une tentative de toi et moi. Il y aura des longues et longues heures où les passés composés, décomposés, viendront tuer notre vertu le temps d'une stupide angoisse. Puisque tout va s'arrêter. Puisque tout va s'arrêter. C'est si bon de rentrer chez soi. Passager, passager, j'emporte ton sourire et te le rends. Aussitôt, pour qu'il ne te manque pas, pour ton long voyage, pour qu'il accompagne tout être de vibration que tu es, autre que moi. Je te souhaite toute la paix du monde, ici et ailleurs. Toi, cher invisible.
Jamais dit, mais
Chers amis, voici que je vous adresse cette lettre. Quand la coupe est pleine, elle déborde. Mais quand la coupe et son contenu ne sont qu'une seule et même substance, alors, il est des moments où l'élixir de vie déborde de tant de splendeur que l'âme jaillit et se déverse. Dans le sourire séraphique des madones, transparaît l'âme débordante de psychique. La lune du visage atteint à sa plénitude, l'équation est parfaite. Une minute, une demi-minute, une seconde plus tard, et le miracle appartient déjà au passé. Quelque chose d'intangible, d'inexplicable, a été donné et reçu. Il peut se produire que la lune n'atteigne jamais à sa plénitude dans la vie d'un être humain. Il est des êtres dans la vie desquels, c'est un fait, on croirait que le seul phénomène mystérieux qui tombe sous l'observation, c'est une éclipse perpétuelle. Dans le cas des êtres affligés de génie, sous quelque forme qu'ils se manifestent, il n'est pas rare d'observer que la lunaison n'est jamais que croissance et décroissance. Et cette constatation ne laisse pas que de nous remplir d'effroi. Plus rares encore sont les êtres monstrueux qui, ayant atteint à la plénitude, éprouvent une telle terreur de ce miracle qu'ils passent le reste de leur vie à tenter d'étouffer ce qui leur a valu de naître et d'être. La guerre de l'esprit est l'histoire de la fission de l'âme. Du temps que la lune était pleine, il y a eu ceux qui n'ont pu accepter cette mort obscure qu'est la décroissance. Ils auraient voulu continuer à pendre dans leur plénitude au zénith de leur ciel personnel. Ils auraient voulu suspendre l'effet de la loi qui se manifestait par leur intermédiaire, par leur naissance et par leur mort, par leur accomplissement et leur transfiguration. Pris entre deux marées, ils se sont écartelés. L'âme a quitté le corps, laissant à un simulacre d'être divisé le soin de lutter jusqu'au bout dans l'arène de l'esprit. Brûlé et anéanti par la violence de leur propre rayonnement. Leur vie n'est à jamais qu'une quête futile de beauté, de vérité et d'harmonie, dépossédés de leur éclat. Ils cherchent à posséder l'âme et l'esprit de ceux vers qui ils sont attirés. Ils capturent le moindre rayon de lumière. Ils reflètent de toutes les facettes affamés de leur être, brillant de tout leur feu, dès que la lumière se tourne vers eux, ils s'éteignent aussi vite. Plus intense est la lumière qui les frappe, plus éblouissant et aveuglant ils paraissent. Ils sont singulièrement dangereux pour les êtres rayonnants. C'est toujours vers l'inépuisable éclat de ces luminaires qu'ils sont les plus passionnément attiré. Regarde, cher ami. Elle gisait dans une lumière d'argent, les lèvres légèrement entrouvertes, en un sourire mystérieux. Son corps semblait étonnamment léger, paraissait flotter dans les vapeurs distillées de la drogue. Leur vie n'est à jamais qu'une quête futile de beauté, de vérité et d'harmonie, dépossédés de leur éclat. Elle gisait dans une lumière d'argent. Chers amis,
sign up in our town. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes in Monroe Hill,
She went and took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you got to hold on, hold on. You got to hold on, take my hand. Standing right here, you got to hold. And a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame. And you share my bed, you share my name. Well, go ahead, call the cops. You don't meet nice girls in coffee shops. Said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take my hand. Standing right here, gotta hold on. Down by the Riverside Motel. It's thin below and falling by a 99-cent store. She closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, you're hometown so far away, but inside your head there's a record that's playing, a song called Hold On, Hold On. Baby, gotta hold on to take a mind, standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on. Standing right there, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. 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 You gotta
hold on. Né en 1870, Rosa Luxembourg fut incarcérée en 1915 et en 1916. Pour avoir appelé les prolétaires allemands et français à ne pas participer à ce qui allait être une grande boucherie. Dans les lettres devenues célèbres qu'elle envoya de prison à son amie Sophie Liebknecht, la seconde épouse de Karl Liebknecht, un avocat qui défendait en Allemagne les sociaux-démocrates ou socialistes révolutionnaires russes menacés d'expulsion, elle exprime un amour de la nature inattendu de la part d'une grande militante du mouvement ouvrier. Vronk, le 24 août 1916. Cher Sonitschka, qu'il m'est pénible de ne pas être auprès de vous en ce moment. Mais je vous en prie, gardez la tête haute. Il y a bien des choses qui vont évoluer. Maintenant, il vous faut partir n'importe où, à la campagne, au milieu de la nature, de la beauté. Il vous faut trouver un endroit où vous soigner. Cela n'a pas de sens de rester où vous êtes et de continuer à vous déprimer. Il peut se passer encore des semaines avant la dernière instance. Je vous en prie, partez dès que possible. Karl, lui aussi, sera certainement soulagé de savoir que vous prenez du repos. Merci mille fois pour votre chère lettre du 10 et pour toutes les bonnes choses. Vous verrez, le printemps prochain, nous irons nous promener ensemble à la campagne et au jardin botanique. Je m'en réjouis déjà. Mais partez tout de suite, Sonichka. Ne pourriez-vous aller sur les bords du lac de Constance pour vous imprégner un peu de l'atmosphère du midi? Avant que vous ne partiez, je voudrais tant vous voir. Adressez une requête à la commandante Tour. Ne tardez pas à m'écrire un petit mot. Gardez courage, malgré tout. Je vous embrasse, votre Rosa. Mille amitiés à Karl. J'ai eu beaucoup de plaisir à recevoir les deux cartes de Helmi et de Bobby.
On voit des autoroutes, des hangars, des marchés, de grandes enseignes rouges et des parkings bondés. On voit des paysages qui ne ressemblent à rien, qui se ressemblent tous et qui n'ont pas de fin. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, si le monde était beau, nous l'avons gâché. On voit de plein rayon de bêtes congelées, leur peur prête à mâcher par nos dents vermillons. On voit l'écriture blanche des années empilées, tous les jours c'est dimanche, tous les jours c'est prier. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau et nous l'avons caché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, si le monde était beau, nous l'avons caché. Des cieux embrigadés, tant de vies sacrifiées pour du cristal qui ronge. On voit des fumées hautes, des nuages possédés, des pluies oranges et mauves donnant d'affreux baisers. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau et nous l'avons caché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, si le monde était beau, nous l'avons caché.
Le 15 janvier 1917. J'ai passé aujourd'hui un moment très pénible. À 3h19, le sifflet de la locomotive m'avertit du départ de Mathilde. Et j'ai couru comme une bête en cage tout le long du mur, faisant et refaisant la promenade. J'avais le cœur crispé à l'idée que je ne pouvais partir moi aussi. Partir. Mais cela ne fait rien. Mon cœur a reçu une tape. Ensuite, il s'est tenu tranquille. Il est habitué à obéir comme un chien bien dressé. Ne parlons plus de moi. Sonichka, vous rappelez-vous ce que nous avons projeté de faire quand la guerre sera finie? Allez ensemble dans le midi, et nous irons. Je sais que vous rêvez d'aller avec moi en Italie, que c'est votre rêve le plus cher. Mais moi, j'ai l'intention de vous entraîner jusqu'en Corse. C'est encore mieux que l'Italie. Là-bas, on oublie l'Europe, du moins l'Europe moderne. Imaginez un vaste et grandiose paysage où le contour des montagnes et des vallées se découpe avec une extrême précision. En haut, rien que des blocs de rochers dénudés, d'un gris plein de noblesse. En bas, des oliviers, des cerises luxuriants et des châtaigniers centenaires. Et partout, le silence qui régnait avant la création du monde. Pas de voix humaine, pas de cris d'oiseaux. Rien qu'un ruisseau qui se glisse quelque part entre les pierres ou le vent qui chuchote tout là-haut, dans les failles des rochers. Le vent qui gonflait la voile d'Ulysse. Et quand vous rencontrez des êtres humains, ils sont en accord avec le paysage. Au détour du sentier, surgit une caravane. Les Corses vont toujours l'un derrière l'autre en caravane et non pas en groupe comme nos paysans. D'ordinaire, on voit tout d'abord un chien qui gambade, puis vient à pas lents une chèvre ou un petit âne qui porte des sacs pleins de châtaignes. Suit un grand mulet sur lequel une femme est assise de côté. La femme laisse pendre les jambes toutes droites et porte un enfant dans les bras. Elle se tient toute raide, svelte comme un cyprès, immobile. À côté d'elle, un homme barbu marche d'un pas tranquille et ferme. Tous deux gardent le silence. On croirait voir la Sainte Famille. À chaque pas, vous découvrez des scènes semblables. J'éprouvais chaque fois une émotion telle que j'étais sur le point de m'agenouiller malgré moi. C'est l'impression que je ressens toujours là-bas, devant un spectacle d'une beauté parfaite. Là-bas, la Bible et l'Antiquité restent vivantes. Il faut que nous y allions. Et nous ferons comme j'ai déjà fait. Nous traverserons toute l'île à pied. Nous dormirons chaque nuit dans un lieu différent. Nous partirons assez tôt chaque matin pour être sur la route au lever du soleil. Ce projet ne vous séduit-il pas? Je serai heureuse de vous servir de guide. Lisez beaucoup. Il faut aussi aller de l'avant par l'esprit. Vous le pouvez car vous êtes encore jeune et malléable. Maintenant, il faut que je termine. Passez une journée tranquille et gardez confiance. Votre Rosa.
Le tango corse. Vas-y. Au bal du petit Ajaccio, on n'en danse pas le mambo, ni le bebop, ni la biguine, mais un vrai tango d'origine. Allez. Le tango corse, c'est un tango conditionné. Le tango corse, c'est de la sieste organisée. On se déplace pour être sûr qu'on ne dort pas. On se prélasse. Tango corse, c'est comme ça. Quand Dominique est fatigué de voir les autres travailler, il se donne un peu de repos, juste le temps d'un petit tango. Tango corse, un tango conditionné. Le tango corse, c'est l'avant-goût de l'oreiller. Le Dominique se croit déjà en pyjama. C'est magnifique. Tango corse, c'est comme ça. musiciens du Nord ont joué trop vite et trop fort. Un vrai tango de salariés. On les a jamais retrouvés. Tango corso, c'est un tango sélectionné. Le tango corse, pour les courages fatigués. Chacun s'étire, en même temps que l'accordéon. Et l'on soupire, tango corse, que c'est bon. Quand à bout de force, on va s'étendre une heure ou deux. Le tango corse. C'est encore là qu'on le danse le mieux.
Le 19 avril 1917. Hier, c'est avec joie que j'ai reçu votre carte, bien que le ton en soit triste. Comme je souhaiterais être auprès de vous maintenant, pour vous faire rire comme naguère, après l'arrestation de Karl. Vous vous souvenez? Au café Fürstenhof, nous avons attiré l'attention par nos éclats de rire intempestifs. Que de bons moments nous avons passés malgré tout. Tous les jours, nous partions de bonne heure à la recherche d'une automobile. Poste d'Hammerplatz, puis nous faisions conduire à la prison, à travers leur Tigarten en fleurs, par la rue Lerter, bien tranquille, avec ses grands ormes. Puis au retour, nous faisions régulièrement halte au Fürstenhof, et régulièrement, vous veniez chez moi, à Zudende, où le mois de mai éclatait dans toute sa splendeur. Nous passions des heures agréables dans la cuisine, où Mimi et vous-même attendiez patiemment devant la petite table à la nappe blanche les résultats de mon art culinaire. Vous rappelez-vous des bons haricots verts à la parisienne? Et j'ai gardé le souvenir très vif d'un beau temps immuable, ensoleillé et chaud. C'est seulement par des journées semblables que l'on éprouve toute la joie du printemps. Puis-je ne manquer jamais de vous rendre visite, le soir, dans votre petite chambre? J'aime tant vous voir dans ce rôle de ménagère qui vous voit si bien. Lorsqu'avec votre silhouette de jeune fille, vous vous tenez près de la table et servez le thé. Enfin, à minuit, nous nous reconduisions, à tour de rôle, par les rues obscures qui embaumaient. Souvenez-vous de cette nuit merveilleuse, à Zudende, quand je vous ai raccompagné chez vous. Les pignons qui détachaient leurs contours nets et noirs sur le ciel bleu et délicat donnaient aux maisons des allures de château fort. Sanjusha, je voudrais être toujours auprès de vous, pour vous distraire, bavarder ou me taire avec vous, pour vous éviter de retomber dans vos tristes pensées, votre désespoir. Dans votre carte, vous posez cette question. Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi? Enfant que vous êtes, la vie est ainsi depuis toujours. Elle est tout à la fois souffrance, séparation, nostalgie. Il faut la prendre telle qu'elle, et se dire que tout est bien ainsi. C'est du moins ce que je fais. Non par une sagesse qui serait le fruit de la méditation, mais simplement par nature. Je sens, comme par instinct, que c'est la seule façon de prendre la vie. Et je suis réellement heureuse, quelles que soient les circonstances. De ma vie présente et passée, je ne retrancherai rien. Je ne changerai rien. Si seulement je pouvais vous amener à voir la vie de la même manière. Je ne vous ai pas encore remercié pour le portrait de Karl. Vous m'avez donné une grande joie. C'était vraiment le plus beau cadeau d'anniversaire que vous puissiez m'envoyer. Il est devant moi, sur la table, bien encadré, et ne me quitte pas du regard. Vous l'avez remarqué, il y a des portraits qui vous suivent des yeux où que vous soyez. Le portrait est très ressemblant, comme Karl doit se réjouir des nouvelles qui nous viennent de Russie. Et vous avez une raison personnelle d'être heureuse. Maintenant, rien ne devrait plus s'opposer à ce que votre mère vienne vous voir. Avez-vous pensé à cela? Je vous souhaite beaucoup de soleil et de chaleur. Ici, il n'y a encore que des bourgeons. Et hier, il est tombé du grésil. Je me demande où en est mon midi du Zudend. L'année dernière, nous sommes restés un moment devant la grille. Vous admiriez l'exubérance de la végétation. Ne vous donnez pas le souci d'écrire des lettres. Moi, je vous écrirai longuement. Mais il me suffit que vous m'envoyiez un petit mot sur une carte postale. Sortez le plus possible. Faites beaucoup de botanique. Avez-vous emporté ma petite flore ? Gardez confiance, cher ami. Tout ira bien. Vous verrez. Je vous embrasse affectueusement, votre amie fidèle, Rosa.
Il y a la nature qui est toute en sueur. Dans les hectares, il y a du bonheur, c'est le printemps. Il y a des lilas qui n'ont même plus le temps de se faire tout mauve ou bien tout blanc, c'est le printemps. Et y a du blé qui se fait du mouron. Les oiseaux, eux, ils disent pas non. C'est le printemps. Et y a nos chagrins qui ont des couleurs. Et y a même du printemps chez le malheur. Y a la mer qui se prend pour Monet, ou pour Gauguin, ou pour Manet. C'est le printemps. Et y a des nuages qui n'ont plus de quoi. On dirait de la barre, papa, papa, c'est le printemps. Et y a le vent du nord qui a pris l'accent. Avec Mistral, il passe son temps. C'est le printemps. Et y a la pluie qui est passée chez Dior pour se payer le modèle Soleil d'or. Y a la route qui se fait nationale et des fourmis qui se font la malle. C'est le printemps. Il y a de la luzerne au fond des lits, et puis le faucheur qui lui sourit, c'est le printemps. Et il y a des souris qui se font les dents sur les matous, par conséquent, c'est le printemps. Il y a des voix d'or dans un seul cri, c'est la Sixtine qui sort la nuit. Il y a la nature qui se tape un bol à la santé du rossignol, c'est le printemps. Et il y a le Beaujolais qui la ramène et Mimi qui se prend pour Carmen, c'est le printemps. Il y a l'île Saint-Louis qui rentre en scène et puis Paris qui s'y promène, c'est le printemps. Il y a l'été qui se pointe dans la rue et des ballots qui n'ont pas vu. C'était le printemps.
Vronk, le 2 mai 1917. En avril dernier, si vous vous souvenez, je vous ai appelé tous les deux au téléphone et je vous ai demandé de venir avec moi à 10h au jardin botanique entendre le rossignol qui donnait un véritable concert. Cachés par d'épais taillis, nous nous sommes assis sur les pierres près d'un filet d'eau. Après le chant du rossignol, nous avons entendu tout à coup un appel plaintif sur une note, quelque chose comme glic. J'ai pensé alors au cri d'un oiseau des marais, d'un oiseau aquatique. Et Karl était du même avis. Mais nous n'avons pu savoir exactement. Eh bien, imaginez-vous qu'un beau matin, il y a quelques jours de cela, j'ai entendu ici le même cri plaintif qui venait du voisinage. Le cœur battant d'impatience, j'ai voulu savoir quel était cet oiseau. Je n'ai eu de cesse jusqu'à ce que j'ai trouvé. Et j'apprends aujourd'hui qu'il ne s'agit pas d'un oiseau des marais, mais du torcol, qui est une sorte de pic. Il n'est guère plus gros qu'un moineau, et son nom lui vient de ce qu'il essaie d'effrayer l'ennemi par des attitudes comiques et par des contorsions de la tête lorsqu'il est en danger. Il ne se nourrit que de fourmis qu'il attrape avec sa langue collante, à la manière du fourmilier. C'est pourquoi les Espagnols l'appellent hormiguero, l'oiseau fourmilier. D'ailleurs, Meurick a consacré à cet oiseau un charmant poème humoristique qui a été mis en musique par Hugo Wolf. Je suis aussi heureuse que si j'avais reçu un cadeau depuis que je connais le nom de l'oiseau à la voix plaintive. Vous pourriez l'écrire à Karl, cela lui ferait plaisir. Ce que je lis, surtout des ouvrages de sciences naturelles, botanique et zoologie. Hier, par exemple, j'ai appris pourquoi les oiseaux chanteurs disparaissent d'Allemagne. Cela est dû à l'extension de la culture rationnelle, sylviculture, horticulture, agriculture, qui détruit peu à peu les endroits où ils nichent et se nourrissent. Arbres creux, terre en friche, broussailles, feuilles fanées qui jonchent le sol. J'ai lu cela avec beaucoup de tristesse. Je n'ai pas tellement pensé au chant des oiseaux et à ce qu'ils représentent pour les hommes, mais je n'ai pu retenir mes larmes à l'idée d'une disparition silencieuse, irrémédiable de ces petites créatures sans défense. Je me suis souvenu d'un livre russe du professeur Sieber sur la disparition des peaux rouges en Amérique du Nord que j'ai lu à Zurich. Eux aussi sont peu à peu chassés de leur territoire par l'homme civilisé et sont condamnés à une mort silencieuse et cruelle. Mais il faut que je sois malade pour que tout me bouleverse à ce point. Savez-vous que j'ai souvent l'impression de ne pas être vraiment un être humain, mais un oiseau ou un autre animal qui a pris forme humaine. Au fond, je me sens beaucoup plus chez moi dans un bout de jardin ou à la campagne, couché dans l'herbe au milieu des bourdons, que dans un congrès du parti. À vous, je peux bien le dire, vous n'allez pas me soupçonner aussitôt de trahir le socialisme. Vous le savez, j'espère mourir malgré tout à mon poste, dans un combat de rue ou un pénitencier. Mais en mon fort intérieur, je suis plus près de mes maisons charbonnières que des camarades. Ce n'est pas que je trouve dans la nature un repos, un refuge, comme tant d'hommes politiques qui ont intérieurement fait faillite. Au contraire, la nature m'offre elle aussi, à chaque pas, des spectacles si cruels qu'ils me causent de vives souffrances. Je vous raconterai par exemple une petite aventure dont le souvenir me poursuit. Au printemps dernier, je revenais d'une promenade à la campagne et je suivais la rue tranquille et déserte quand mon attention fut attirée par une petite tache sombre sur le sol. Je me penchai et fus témoin d'un drame silencieux. Un gros scarabée gisait sur le dos et essayait vainement de se défendre contre une horde de minuscules fourmis qui se pressaient autour de lui et le dévoraient vivant. Frémissant d'horreur, je pris mon mouchoir et commençai à chasser ces monstres. Mais les fourmis étaient si acharnées et si tenaces que je dus leur livrer un long combat. Quand j'eus enfin libéré la pauvre victime et l'eus posée sur l'herbe, je m'aperçus que deux de ses pattes étaient déjà mangées. Je m'en fus, avec le sentiment pénible que je lui avais rendu un service fort contestable. Nous avons déjà de longs crépuscules. D'ordinaire, j'aime beaucoup ces heures de la journée. À Zudund, j'avais une quantité de merles. Ici, ils ne se montrent pas et se taisent pour le moment. Pendant tout l'hiver, j'ai nourri un couple, mais il est parti. Habituellement, à Zudund, je passais mes soirées à flâner dans la rue. C'est un si beau spectacle lorsque les flammes roses du gaz, qui semblent intimidées par les dernières lueurs violettes du jour, tremblent soudain derrière la vitre des réverbères. Dans la rue glisse la silhouette d'une concierge qui se hâte de rentrer chez elle, ou d'une bonne qui court acheter quelque chose chez le boulanger ou l'épicier. Les enfants du cordonnier, qui sont mes amis, continuaient à jouer dehors, malgré l'obscurité, jusqu'au moment où une voix énergique les appelait de l'angle de la rue. À cette heure, il y avait toujours un merle qui ne pouvait trouver le repos, et qui soudain jetait des cris perçants ou bavardait comme un enfant mal élevé et volait bruyamment d'arbre en arbre. Et je restais au milieu de la rue, à compter les premières étoiles. Je n'avais pas envie de rentrer, de quitter cette douce atmosphère de crépuscule dans laquelle le jour et la nuit se fondaient lentement. Sanjusha, je ne tarderai pas à vous écrire de nouveau. Gardez confiance, tout ira bien, pour Karl aussi. Au revoir, jusqu'à la prochaine lettre. Je vous embrasse. Votre Rosa.
I can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds. Gonna mow me down. Look at all the people like cows in a herd.
Vranck, le 19 mai 1917. Quel merveilleux spectacle! Ici, tout est verdure et fleurs. Les marronniers ont revêtu leur opulente et fraîche parure. Les groseilliers ont des petites étoiles jaunes. Le cerisier au feuillage rougeâtre est déjà en fleurs, et la bourdaine ne tardera guère. Aujourd'hui, Louise Kautsky m'a rendu visite et m'a laissé en partant un tas de myosotis et de pensées que j'ai plantées moi-même. Deux petits massifs séparés par une ligne droite, avec en alternance myosotis et pensées. Tout a si bien pris, je n'en crois pas mes yeux. C'est ma première plantation et j'ai réussi du premier coup. À la Pentecôte, j'aurai déjà plein de fleurs devant la fenêtre. Il y a ici une foule d'oiseaux nouveaux. Chaque jour, je fais la connaissance d'une espèce que je n'avais jamais vue. Vous vous souvenez, le matin, nous sommes allés au jardin botanique, en compagnie de Karl, pour écouter le rossignol. Nous avons vu aussi un arbre immense, qui n'avait pas encore de feuillage, mais qui était entièrement couvert de petites fleurs blanches et brillantes. Nous nous sommes cassés la tête pour essayer de savoir quel était cet arbre, car manifestement, ce n'était pas un arbre fruitier, et les fleurs étaient assez étranges. Maintenant, je sais, c'est un peuplier blanc. Et les fleurs étaient en réalité des feuilles nouvelles. En effet, si les feuilles adultes du peuplier ont le dessous blanc et le dessus vert sombre, les nouvelles sont encore recouvertes de duvet blanc des deux côtés et brillent dans le soleil comme des fleurs blanches. J'ai un grand peuplier de cette variété dans mon petit jardin et tous les oiseaux chanteurs viennent s'y poser de préférence. Ce jour-là, vous avez tous les deux passé la soirée avec moi, vous rappelez-vous ? Il faisait si beau. Nous avons lu quelques pages à haute voix et à minuit, comme nous allions nous séparer, par la fenêtre du balcon qui était ouverte, entrait un parfum délicieux de jasmin. Je vous ai récité ce poème espagnol que j'aime tant. Loué soit celui qui a créé le monde et par qui la splendeur s'épanouit de toutes parts. Il a créé la mer et ses gouffres sans fond. Il a créé les navires qui la sillonnent. Il a créé le paradis et la lumière éternelle. Il a créé la terre et ton visage. Ah, Sonichka, si vous n'avez pas entendu ce poème mis en musique par Wolf, vous ne pouvez savoir quelle brûlante passion anime les deux mots très simples de la fin. Au moment même où je vous écris, un gros bourdon vient d'entrer dans la chambre qui l'emplit de sa voix grave. Que c'est beau! Quelle profonde joie de vivre exprime cette musique où vibre l'ardeur, la chaleur de l'été et le parfum des fleurs. Sonichka, soyez confiante et écrivez vite. Je languis. Votre Rosa.
En relisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait deux.
C'est toi que j'aime,
ne prends qu'un M,
par-dessus tout. Ne me dis point,
il en manque un,
que tu t'en fous. Je t'en supplie,
point sur lui,
fais-moi confiance. Je suis l'esclave,
sans accent grave,
des apparences. C'est ridicule,
c'est majuscule.
C'était si bien. Tout ça m'affecte.
Ça, c'est correct.
Au plus haut point. Si tu renonces,
comme ça se prononce,
à m'écouter, avec la vie,
comme ça s'écrit,
j'en finirai. Pour me garder,
ne prends qu'un D,
tant de rancune. T'as pas de cœur, y a pas d'erreur.
Là, y en a une.
J'en mourirai, n'est pas français. Ne comprends-tu pas? Ça sera ta faute, ça sera ta faute.
Là, y en a pas.
Moi, je te signale que Gardénal ne prend pas deux, mais n'en prend qu'un, caché au moins. N'en prends pas deux. Ça te calmera et tu verras, tour ton ballot. Le cafard, les pleurs, les peines de cœur, au E dans l'eau.
Frank le 20 juillet 1917. Sonichka, ma chère amie, puisqu'on me laisse dépérir dans cette prison plus longtemps que je ne pensais, vous recevrez encore une lettre de Vronk. Comment pouviez-vous croire que je ne vous écrirai plus? Les sentiments que j'éprouve à votre égard n'ont pas changé et ne changeront pas. Je n'ai pas écrit parce que je connaissais tous les soucis contre lesquels vous vous débattez depuis votre départ d'Ebenhausen, et aussi parce que je n'étais pas pour le moment d'humeur à vous écrire. Vous savez probablement qu'on me transfère à Breslau. Ce matin, j'ai dit adieu à mon petit jardin. Le temps est gris et pluvieux, l'orage menace, dans le ciel courent des lambeaux de nuages. Mais j'ai bien profité de ma promenade habituelle. J'ai fait mes adieux à l'étroit chemin pavé qui longe le mur. Depuis près de 9 mois, je l'ai parcouru si souvent que j'en connais la moindre pierre, la moindre herbe qui pousse entre les pavés. Ce qui m'attire dans les pierres, c'est la diversité de leurs couleurs, des rouges, des bleus, des verts, des gris. Pendant le long hiver, mes yeux qui ne pouvaient se poser sur un coin de verdure cherchaient avidement dans la couleur des pierres un peu de variété et de réconfort. Maintenant que l'été est venu, il y a tant de choses curieuses et intéressantes à voir entre les pierres. Une foule d'abeilles sauvages et de guêpes y ont fait leur nid. Elles creusent entre les pierres des trous ronds, de la grosseur d'une noisette, qui donnent accès à de profondes galeries. De la terre qu'elles rejettent à la surface, elles font de très jolis petits tas où elles déposent leurs œufs et produisent la cire et le miel sauvage. Elles ne cessent d'entrer et de sortir. Pendant mes promenades, j'ai dû veiller à ne pas écraser leurs demeures souterraines. Puis, il y a le va-et-vient continuel des fourmis qui traversent le chemin en plusieurs colonnes, suivant très exactement la ligne droite, comme si elles connaissaient d'instinct les lois de la géométrie et savaient que la ligne droite est le plus court point à un autre. Des herbes poussent à profusion le long du mur. Les unes sont déjà fanées et répandent leurs flocons, les autres continuent à bourgeonner inlassablement. Il y a aussi toute une génération d'arbrisseaux que j'ai vu croître au milieu du chemin ou contre le mur, durant le printemps. Un petit acacia, certainement issu d'une graine tombée du vieil arbre, plusieurs peupliers blancs venus au monde depuis le mois de mai. Les peupliers ont déjà revêtu leur riche parure de feuilles vertes et blanches, qu'ils balancent avec infiniment de grâce dans la bourrasque, tout comme leurs aînés. Que de fois j'ai suivi le chemin entre ces arbres, que de sensations j'y ai éprouvées, que de pensées m'y sont venues. Au plus fort de l'hiver, je m'y suis souvent frayé un passage après une chute de neige. J'étais alors accompagnée de ma chère petite maison charbonnière, que j'espérais revoir à l'automne, mais qui ne me retrouvera plus quand elle reviendra chercher sa nourriture sur ma fenêtre, à l'endroit habituel. En mars, pendant les quelques jours de dégel qui ont suivi un froid très vif, mon chemin s'est transformé en ruisseau. Je me souviens que le vent tiède ridait la surface de l'eau où les reflets luisants des pierres de la muraille dansaient sur de petites vagues. Puis est venu le mois de mai et je vous ai envoyé la première violette qui a fleuri contre le mur. Tandis que je me promenais aujourd'hui, observant et méditant ces vers de Goethe chantés dans ma mémoire. Merlin, le vieux dans la lumière de sa tombe, où je lui parlais du temps de mon adolescence. Vous connaissez la suite du poème. Bien entendu, ces vers n'avaient aucun rapport avec mon humeur et mes préoccupations du moment. Mais je me laissais bercer par la musique des mots et par le charme étrange du poème. Je ne sais pourquoi, mais les beaux poèmes, surtout ceux de Goethe, me touchent profondément dès que ma sensibilité est en émoi. C'est presque une réaction physiologique. Il me semble qu'une boisson délicieuse vient étancher ma soif, me rafraîchir, me rend la santé du corps et de l'esprit. Je ne connais pas le poème du divan occidental et oriental que vous mentionnez dans votre dernière lettre. Je vous demanderai de me le copier. Il y en a un autre que je souhaiterais avoir depuis longtemps, car il ne figure pas dans le petit recueil que je possède. Il s'agit de l'hommage d'un bouquet. C'est un tout petit poème de 4 à 6 vers. Je le connais par une mélodie de Wolf qui est d'une beauté exceptionnelle, surtout la fin qui donne à peu près ceci. J'ai cueilli ce bouquet avec infiniment de mélancolie. Je l'ai pressé contre mon cœur plus de 1000 fois. Cette musique exprime un sentiment religieux, une délicatesse, une pudeur, comme un agenouillement dans une prière muette. Mais je ne me souviens plus très bien du texte et je voudrais le retrouver. Hier soir, vers 9h, j'ai assisté de nouveau à un merveilleux spectacle. Du canapé où j'étais assise, j'ai remarqué un reflet rose qui éclairait la vitre de la fenêtre. Cela m'a étonnée car le ciel était tout gris. J'ai couru vers la fenêtre et je suis restée sous le charme. À l'est, sur le gris uniforme du ciel, se détachait un immense nuage d'une belle teinte rose, tellement irréel que l'on aurait dit un sourire, un salut venant d'horizons inconnus. J'ai éprouvé comme une libération, et sans le vouloir, j'ai tendu mes deux mains vers cette apparition magique. N'est-ce pas que la vie est belle et vaut la peine d'être vécue quand elle nous offre de telles couleurs et de telles formes? Je ne pouvais détacher mon regard de cette vision lumineuse et me laisser pénétrer par son rayonnement, lorsque tout à coup, j'ai ri de mon attitude. Mon Dieu! Le ciel, les nuages et la beauté du monde ne resteront pas à Vronk. Je n'ai pas à leur dire adieu, non. Ils m'accompagnent, où que j'aille, aussi longtemps que je vivrai. Bientôt je vous écrirai de Breslau. Venez me voir là-bas, dès que vous le pourrez. Toutes mes amitiés à Karl. Je vous embrasse. Au revoir dans ma 9e prison. Votre amie fidèle, Rosa.
La vie est belle. La vie est belle. La vie est belle. Seule dans ma chambre. Un jour normal, j'apprends dans les journaux que je suis dans l'axe du mal. Je lis entre les lignes et je comprends qu'on veut me kill. Donc je ferme la serrure pour être un peu plus tranquille. Dehors c'est la guerre et je crois qu'elle vient vers moi. Malgré les manifs, qui vivra la verra. Je mets des sacs de sable dans mon salon. Des salauds veulent me shooter comme au foot. Le stopper veut shooter le ballon. À la télé j'entends que je suis le pire des mecs. Non violent, violent, la propagande est impeccable. Je flippe des troupes spéciales des BI-52. Regrette ce que j'ai fait, je crois que j'aurais pu faire mieux. Mais l'erreur est humaine, j'avoue, j'ai fait des erreurs. Prendre position, c'est prendre une pluie de terreur. Au nom du Père et du Saint-Esprit, l'imam et du rabbin, plus jamais ceci. Par satellite pour faire un travail impeccable. Toutes les technologies sont mises à mon service dans le but de chasser le mal et que jaillisse un monde peace. Dans un porte-avions et fils qu'on me demande. Ce soir je dois frapper un type qui est tout seul dans sa chambre. Je suis un oiseau sans ailes, suppositoire de fer. 500 km à faire et puis pour lui c'est l'enfer. Ça y est, je suis parti, je vole vers son domicile. Et je préserve la paix en commettant des homicides. Je perce les nuages verts, la psy c'est leur donnée. Objectif mémorisé, je connais les coordonnées. Je suis de fer, lui de chair, vive à l'improviste. Vole au-dessus de manif, de ces millions de pacifistes. Au nom du Père et du Saint-Esprit, l'imam et du rabbin, plus jamais ceci. Mon bâtiment, ce soir tu vas mourir, tel est mon ressentiment. Tranquille, je range ma chambre, puis je vois les photos de moi-même, de mon ex-vacances au Colorado. Des bouvoirs comme Antonia avec nos deux sacs à dos. Là-haut, donner discours avec tous ces ados. Vois mon père et puis ma mère sur des clichés noirs de l'or. Moi qui lui trouvais tout, je fais la même à mes enfants. Ils dorment tranquillement, ils doivent compter les moutons. Ou bien faisaient des rêves quand il y a eu l'explosion. On a tué ma famille sans même me la connaître. Moi, ma femme et mes enfants sont ajoutés au père. Des missiles kill, dans le civil kill. Des enfants dociles, le monde est hostile. J'ai rien fait, ils n'ont rien fait, ils n'avaient rien fait. Des parler de bienfaits, mais je ne vois que des méfaits. Moi ce n'est pas du racet, prenez la fesse. S'ils sont absents, c'est grâce à vos excès. J'appelle les synagogues, les mosquées et les temples. Église et chapelle, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Saint-Esprit, l'imam et du rabbin, plus jamais ceci.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Saint-Esprit.
Du même et du rabbin, plus jamais ceci.
Novembre 1917. Très cher Sonitchka, j'espère avoir bientôt la possibilité de vous envoyer cette lettre, aussi je m'empresse de l'écrire. J'ai été si longtemps privée de la joie de m'entretenir avec vous, tout au moins par lettre. Mais je devais réserver à Hans D. les quelques lettres que j'avais la permission d'écrire, car il les attendait. C'est fini maintenant. Mes deux dernières lettres s'adressaient à un mort, et on m'en a déjà renvoyé une. Je ne puis y croire. Mais il vaut mieux ne pas parler de cela. Je préfère me retrouver seule avec ma douleur, et quand on veut user de ménagement pour m'annoncer une mauvaise nouvelle et me consoler par des jérémiades, comme l'a fait N, on ne réussit qu'à m'irriter. Faut-il que mes amis les plus proches me connaissent mal, et aient pour moi peu d'estime? Ne comprennent-ils pas qu'en pareilles circonstances, il est préférable et plus délicat de me dire tout de suite en toute simplicité « il est mort ». C'est affligeant, mais n'en parlons plus. Quel dommage de voir s'écouler ainsi les mois et les années, quand nous pourrions vivre ensemble des heures si agréables, malgré les atrocités qui se commettent dans le monde. Voyez-vous, Sonitchka, plus cela dure, plus l'infamie et l'horreur auxquelles nous assistons tous les jours dépassent toute limite et toute mesure, plus je deviens calme et ferme. Étant donné qu'on ne peut appliquer les critères de la morale aux éléments, à une tempête, à une inondation ou à une éclipse de soleil, il faut les considérer comme un fait, comme un objet de recherche et de connaissance. Pour un esprit objectif, ce sont les seules voies qui s'offrent à l'histoire, et il faut la suivre, sans perdre de vue l'orientation générale. J'ai le sentiment que toute l'ordure morale dans laquelle nous pataugeons, l'immense asile de fous où nous vivons, peuvent du jour au lendemain, comme par un coup de baguette magique, donner tout le contraire, se changer en un monde prodigieux de beauté et d'héroïsme. Et si la guerre dure encore quelques années, je suis persuadée que cela se produira. Lisez « Les dieux ont soif » d'Anatole France. Ce qui fait, à mon sens, la grandeur de cet ouvrage, c'est la vision générale que l'auteur a de l'homme. Voyez, nous dit-il, de ces personnages pitoyables, de ces mesquineries quotidiennes, naissent à un moment déterminé de l'histoire les événements les plus extraordinaires et les gestes les plus grandioses. Devant l'évolution sociale, il faut avoir la même attitude que dans la vie privée. Restez calme. Voir les choses dans leur ensemble et garder un léger sourire. Je crois fermement qu'après la guerre ou à la fin du conflit, nous nous engagerons dans la bonne voie, mais il nous faudra d'abord traverser les pires souffrances que l'homme puisse connaître. À propos, ce que je viens d'écrire éveille en moi une toute autre image, un fait que je voudrais vous rapporter, car je le trouve très poétique et très émouvant. J'ai appris récemment dans un ouvrage scientifique sur la migration des oiseaux que différentes espèces qui d'ordinaire se livrent une guerre sans merci et se dévorent les unes les autres traversent la mer côte à côte, en toute harmonie, au cours de leur grand voyage vers le sud. Dans les immenses troupes d'oiseaux qui se rendent en Égypte pour y passer l'hiver et qui forment les nuages si épais qu'ils obscurcissent le ciel, des milliers de petits oiseaux chanteurs, comme les alouettes, les roitelets, les rossignols, volent sans crainte au milieu des oiseaux de proie, éperviers, aigles, faucons, hiboux, qui d'habitude leur font la chasse. On dirait que pendant le voyage, ils règnent tacitement une trêve de Dieu. Tous tendent au même but, et quand ils ont atteint les bords du Nil, ils se laissent tomber à terre, à demi-morts d'épuisement, puis ils se séparent, suivant les espèces et les régions. Il y a mieux encore, on a constaté que durant le voyage au-dessus de l'immensité de la mer, de grands oiseaux transportent de plus petits sur leur dos. On a vu passer ainsi des troupes de grues portant de tout petits oiseaux qui faisaient entendre leur joyeux gazouillis. N'est-ce pas charmant? L'autre jour, j'ai trouvé dans un recueil composé sans goût et sans idée directrice un poème de Hugo von Hofmannsthal. D'ordinaire, je n'aime pas cet écrivain qui me paraît affecté, précieux, peu clair. À vrai dire, je ne le comprends pas. Toutefois, ce poème m'a beaucoup plu et m'a laissé une forte impression. Je le joins à cette lettre. Peut-être l'aimerez-vous aussi. En ce moment, je suis plongée dans la géologie. Cela vous semblera peut-être une science très ingrate. Eh bien, pas du tout. Je l'étudie avec un très vif intérêt et j'y puise d'immenses satisfactions, car elle ouvre à l'esprit de très vastes horizons et donne plus que toute autre science une vision globale de la nature. Il y a tant de choses que je voudrais vous raconter à ce propos, mais il faudrait que nous puissions parler en passant une matinée à nous promener dans la campagne de Zudund, ou en nous raccompagnant à tour de rôle par une soirée tranquille au clair de lune. Que lisez-vous ? Avez-vous fini le Lessing Legend ? Tout ce que vous faites m'intéresse. Écrivez-moi tout de suite, si possible, par la même voie, ou à défaut par la voie officielle, sans mentionner cette lettre. Je compte déjà les semaines qui me séparent du moment où je vous reverrai. Ce sera peu après le nouvel an, n'est-ce pas ? Que dit Karl dans ses lettres ? Quand le reverrez-vous ? Envoyez-lui toutes mes amitiés. Je vous serre la main et vous embrasse affectueusement, ma chère, chère Sonichka. Écrivez-moi vite une longue lettre. Votre Rosa.
On a dit non à la guerre, personne écoute, personne entend. Avant tout enfant de la terre, les frontières ne sont qu'illusions. Une seule et même planète, une humanité aux mille facettes, une humanité aux mille couleurs, une humanité qui meurt dans sa chair. On a dit non à la guerre, non à la famine, non à la peur de l'autre, non à obéir à la hiérarchie lorsqu'elle prononce des paroles de mort. Du sud au nord, qu'est-ce qu'on honore? Quelles sont les valeurs? L'autre est ton miroir, frapper son reflet, c'est se frapper soi-même et le briser. C'est plus de 7 ans de malheur. Et l'histoire se répète. Et l'histoire se répète. Et l'histoire se répète. Et l'histoire se répète. On a dit non à la guerre, à la guerre, à la guerre. On a dit non. On a dit non à la guerre, à la guerre. On a dit non. On a dit non à la guerre, non à la spirale meurtrière. C'est toujours les civils qui payent et toujours les mêmes erreurs qu'hier. Dis-moi qui a son cœur est fidèle et je te dirai qui pense par lui-même à l'ombre d'une querelle millénaire. Il ne tient qu'à nous pour rejoindre la lumière. On a dit non à la mort de l'autre, non à la haine, non au rapport de force, non aux troupes armées d'une vengeance à vivre. Dites des terroristes qui leur vendent leurs drogues, qui leur vendent leurs armes. C'est bien plus rentable tirer des engins que de faire la paix, trouver des ennemis. L'innocent meurtri, il deviendra demain. Et l'histoire se répète. Et l'histoire se répète. Et l'histoire se répète. Et l'histoire se répète. On a dit non à la guerre, à la guerre, à la guerre. On a dit non.
Breslau, le 12 mai 1918. Sonichka, votre lettre m'a donné tant de joie que je vous réponds sur le champ. Vous voyez le plaisir et le réconfort que vous procure une visite au jardin botanique. Pourquoi n'en profitez-vous pas plus souvent ? Et je prends part à votre plaisir quand vous me décrivez aussitôt vos impressions avec tant de vivacité et de couleur. Oui, je connais ces merveilleux chatons du pin en fleurs, qui sont d'un rouge rubis. Ils sont d'une telle beauté, comme la plupart des plantes en pleine floraison, que l'on a peine à en croire ses yeux. Ces chatons rouges sont les fleurs femelles dont naîtront les grandes pommes de pin, si lourdes qu'elles retournent leurs pointes vers le sol. À côté se trouvent les chatons mâles, peu apparents, qui sont d'un jaune pâle et qui répandent leur pollen doré. Je ne connais pas le pétoria que vous décrivez comme une sorte d'acacia. Voulez-vous dire qu'il a les feuilles pennées et des fleurs papillonacées comme l'arbre que l'on nomme acacia ? Comme vous devez le savoir, l'arbre que l'on appelle vulgairement ainsi n'est pas un acacia, mais un robinier. Le mimosa, par exemple, est un véritable acacia. Il a des fleurs d'un jaune soufre et embaume l'air. Mais je ne pense pas que le mimosa pousse en plein air à Berlin, car c'est une plante des pays chauds. En Corse, j'ai vu sur la place d'Ajaccio de merveilleux mimosas qui fleurissaient au mois de décembre. C'étaient des arbres immenses. Ici, je ne peux malheureusement voir le feuillage des arbres que de loin, de ma fenêtre. Et j'aperçois leurs cimes par-dessus le mur. J'essaie d'en deviner l'espèce par la forme et la couleur, et je crois que dans l'ensemble, je ne me trompe guère. L'autre jour, quelqu'un a apporté une branche cassée dont la forme étrange a surpris tout le monde. On s'interrogeait sur sa provenance. c'était une branche d'orme. Souvenez-vous, je vous ai montré dans la rue de Zudund des ormes couverts de petits fruits d'un rose pâle, légèrement verdâtre. C'était aussi au mois de mai et vous avez été enthousiasmé par cet extraordinaire spectacle. Ici, les gens habitent depuis des dizaines d'années une rue plantée d'ormes, mais ils n'ont jamais observé ces arbres en fleurs. Et ils ne s'intéressent pas davantage aux animaux. Au fond, la plupart des citadins sont de véritables barbares. Chez moi, au contraire, les liens qui m'unissent profondément à la nature vivante prennent un caractère presque maladif qui doit s'expliquer par mon état nerveux. Au-dessous de la fenêtre, un couple d'alouettes huppées vient d'avoir un petit. Sans doute les trois autres sont-ils morts. Et déjà le petit oiseau sait très bien courir. Peut-être avez-vous remarqué comme les alouettes huppées sont drôles quand elles courent à petits pas rapides, sautillant sur leurs deux pattes comme le moineau. Le petit commence même à voler, mais il ne trouve pas encore par lui-même assez de nourriture, d'insectes et de petites chenilles, surtout par un temps aussi froid. Alors il vient tous les soirs dans la cour sous ma fenêtre, où il pousse des cris aigus et plaintifs. Aussitôt, les parents surgissent et lui répondent à mi-voix par un « oui, oui » inquiet. Puis ils courent dans tous les sens, cherchant désespérément de la nourriture dans le crépuscule et le froid. Quand ils ont trouvé quelque chose, ils reviennent vers le petit qui crie famine et lui donne la béquée. Maintenant, la scène se répète tous les soirs, vers 8h30. Lorsque j'entends les cris aigus et plaintifs sous ma fenêtre et que je vois le souci, l'inquiétude des parents, j'éprouve un véritable serrement de cœur. Je ne puis leur venir en aide, car les alouettes huppées sont très craintives et s'enfuient quand on leur jette du pain, au contraire des pigeons et des moineaux qui me suivent déjà comme des chiens. J'ai beau me dire que c'est ridicule, que je ne suis pas responsable de toutes les alouettes huppées qui courent de par le monde et que je ne puis pleurer sur le sort de tous les buffles qui sont roués de coups, comme ceux qui chaque jour viennent dans la cour avec leur charge. Cela ne m'avance à rien. Et je suis vraiment malade quand j'assiste à de pareilles scènes. Si les tourneaux qui s'agitent et bavardent toute la journée dans le voisinage au point de me lasser restent quelques jours silencieux, je ne puis retrouver le repos de peur qu'il ne lui soit arrivé quelque chose. Et mon angoisse dure tant qu'il n'a pas repris son vain bavardage. C'est ainsi que de ma cellule, je suis liée par des fils invisibles à des milliers de créatures, grandes et petites, que je m'inquiète, que je souffre, que je me fais des reproches pour tout ce qui leur arrive. Vous faites vous aussi partie de ces oiseaux et de ces êtres pour qui ma sensibilité s'émeut à distance. Je sais combien vous souffrez de voir que les années passent inexorablement sans que nous puissions vivre. Mais soyez patiente et gardez le courage. Nous vivrons et nous verrons se produire des événements grandioses. Pour le moment, nous assistons à l'effondrement du vieux monde qui croule par pans entiers, jour après jour. Ce qui est le plus surprenant, c'est que la plupart des gens ne s'en aperçoivent pas et croient marcher encore sur un sol ferme. Sonitchka, avez-vous ou pourriez-vous me procurer Gil Blas et le diable boiteux? Je ne connais pas du tout le sage et j'ai l'intention de le lire depuis longtemps déjà. L'avez-vous lu? À défaut, j'achèterai ces livres dans l'édition Réclame. Je vous embrasse bien affectueusement. Votre Rosa.
L'infirmier de minuit distribue le cyanure et le mandano, ici le charter est prêt. Eh mec, il manque encore les outils et les clôtures. Mais les bouches sont en route, faut décoller, pas vrai. Et les voilà partis vers d'autres aventures, vers les flèches où les fleurs flashent avec la folie. Et moi je reste assis, les poumons dans la sueur, affiler mes temps morts à la mélancolie. Soleil, soleil, n'est-ce pas merveilleux de se sentir piégé? Pareil que mon sorcier m'attend à Chihuahua ou bien dans un clan des brumeux de Singapour. Mais je traîne PMU avec ma gueule de bois, en rêvant qu'un armée viendra me causer d'amour. Et je tombe sur le Chinton dans cette soute à proxo. Tu me dis viens prendre un verre, t'es du mal et fatigué. Laisse tomber ton cutie, deviens ton même c'est déchiré. Soleil, soleil, n'est-ce pas merveilleux de se sentir piégé?
Breslau, le 18 octobre 1918. Sonitschka, ma très chère amie, je vous ai écrit avant-hier. Je n'ai toujours pas de nouvelles du télégramme que j'ai adressé au chancelier de l'Empire. Cela peut encore demander quelques jours. En tout cas, une chose est certaine. Je suis dans un tel état d'esprit que je ne puis recevoir mes amis en présence d'un gardien. Pendant des années, j'ai tout supporté avec beaucoup de patience. Et j'aurais continué pendant des années encore si les circonstances n'avaient changé. Mais depuis le renversement de la situation, je suis en proie à de trop vives émotions. Les entretiens sous surveillance au cours desquels je ne puis parler de ce qui m'intéresse vraiment me sont devenus si pénibles que je préfère renoncer à toute visite jusqu'à ce que nous puissions nous revoir en toute liberté. D'ailleurs, cela ne saurait durer davantage. S'ils ont libéré Dittmann et Kurt Eichner, ils ne peuvent me garder plus longtemps en prison, et Karl ne tardera pas lui aussi à être libre. Alors il vaut mieux attendre de nous revoir à Berlin. Entre-temps, je vous adresse toutes mes amitiés. Votre amie fidèle, Rosa.
Liberté, liberté, qu'as-tu fait, liberté, pour ceux-là qui voulaient te défendre? Les voilà tes amis, ils étaient trop petits. Et demain, le bourreau va les pendre. Ils aimaient bien leurs enfants, ils aimaient bien leurs parents. Et pas qu'un peu le vin rouge et l'amour, mais quelque chose manquait qu'il ne pouvait expliquer. Et c'était toi, liberté des beaux jours, avec une rose au chapeau, bien plus jolie qu'un drapeau. Droit devant eux, un jour s'en sont allés, mais ils n'ont pas fait quatre pas que les sergents étaient là, qui les tenaient au bout des pistolets.
Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux-rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués, nus aux poteaux de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de coton anglais. Quand avec mes haleurs on finit ces tapages, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais, dans les clapotements furieux des marées. Moi, l'autre hiver, plus sourd que les cerveaux d'enfants, je courus, et les péninsules des marées n'ont pas subi tohu-bohu plus triomphant. La tempête a béni mes éveils maritimes. Plus léger qu'un bouchon, j'ai dansé sur les flots qu'on appelle rouleur éternel de victimes. D'inuit, sans regretter l'œil nié des falots. Plus douce qu'aux enfants la chair des pommes sûres, l'eau verte pénétra ma coque de sapin, et des taches de vin bleu et des vomissures me lava, dispersant gouvernail et grappin. Le bateau ivre, comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé parlait à l'heure. Des peaux-rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur, comme je descendais des fleuves impassibles. Vous êtes avec l'équipe Fontaine Bécreau dans Des mots d'ici, des mots d'ailleurs. L'émission insondable qui visite vos intérieurs et vos extérieurs. Par les mains expertes de Christophe Bécreau à la régie, vous avez entendu le son de nos voix, les musiques de Mozart, de l'ensemble Mozart l'Égyptien, Dominique A, Fernandel, Léo Ferré, Ilse, Serge Gainsbourg, MC Solar, Kenny Arcana, Thiéphène, Claude Debussy, Barbara. Des textes de Henry Miller, James Fontaine, Arthur Rimbaud, Rosa Luxembourg. Les lettres de Rosa Luxembourg ont été proposées par Nathalie Vautier.
Au revoir, bonne soirée.
Des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Prochain rendez-vous. Le dernier jeudi du mois, même heure, même endroit, vous avez toujours le choix de laisser entrer la lumière ou garder les volets fermés. J'espère que vous les ouvrirez et nous ferons rentrer peut-être un peu de lumière pour recevoir la vôtre. Bonsoir.